qu'un ordinateur identifie des photos, on y est, qu'ils reconnaissent tout seuls des objets ou des animaux sans apprentissage humain. On y est aussi que votre assistant personnel sur votre téléphone vous parle comme une vraie personne et connaisse vos préférences pour le cinéma. Ça arrive, tout ça grâce au deep learning ou apprentissage profond. Quant aux étapes d'après, le diagnostic médical, la traduction automatique de n'importe quel langage et peut-être développer des valeurs morales ou pourquoi pas une personnalité. Jusqu'où les machines peuvent-elles apprendre? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce problème ou ces sujets, nous avons la chance d'accueillir une sommité dans ce domaine. Antoine Borde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en intelligence artificielle au FAIR, le Facebook Artificial Intelligence Research, ex-chercheur au CNRS détaché à l'Université de Compiègne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Eh bien, alors, j'avais une citation de Yann Lequin, pardon, mais j'ai celle d'Anne de Biron qu'elle vient de me donner, que je trouve assez drôle, que je vais vous soumettre. Gérard Berry disait aux enfants, l'informaticien Gérard Berry disait « Essayez d'être aussi bête qu'un ordinateur, super rapide, très rigoureux et complètement idiot. » Ça a plus grand chose à voir avec les ordinateurs d'aujourd'hui, Antoine Borde.
Non, je trouve que la citation est en fait assez vraie vis-à-vis des algorithmes qu'on peut faire actuellement. Ils sont très rapides, ils peuvent gérer beaucoup de données, ils peuvent accomplir des tâches qui peuvent paraître assez intéressantes, mais leur qualité première, c'est toujours la vitesse et la quantité de données qu'ils peuvent gérer. Donc pour l'instant, on peut dire que les algorithmes sont toujours un petit peu idiots.
D'accord, on va voir ça plus précisément. L'autre citation qui est celle que je voulais vous soumettre pour débuter cette émission, c'est celle de Yann Lequin, qui est un peu, on va dire, votre grand patron pour faire vite, pionnier du deep learning, apprentissage profond en français, on va dire deep learning, parce que c'est la formule la plus communément employée. Yann Lequin déclarait au mois de juillet dernier dans les colonnes du Monde, je n'ai jamais vu une révolution aussi rapide, on est passé d'un système un peu obscur, un système utilisé par des millions de personnes en seulement 2 ans. Le deep learning, donc, c'est la nouvelle révolution informatique ou numérique, Antoine Borde ?
Oui, ça c'est correct. C'est-à-dire que ce qui s'est passé très rapidement au cours des 5 dernières années, c'est qu'en fait on est passé de méthodes qui étaient utilisées par la communauté scientifique et qui étaient utilisées de façon assez confidentielle par des laboratoires comme beaucoup d'autres algorithmes de machine learning au cours des 10 dernières années ou des 20 dernières années, à quelque chose qui est dans la vie de tous les jours, et c'est le changement s'est passé en quelques années. Et ça, c'est assez exceptionnel, oui.
Alors, on va essayer de poser un peu, de baliser le terrain, parce que vous venez de dire machine learning, j'ai dit deep learning, c'est pas tout à fait la même chose. Définissons donc un peu ce dont on va parler au cours de cette heure. Qu'est-ce que c'est que le deep learning ou apprentissage profond ? Antoine Borde, essayez de nous expliquer en quelques mots, même si c'est pas évident.
Voilà, non, je pense que je peux partir juste par expliquer le machine learning.
La première étape, voilà. Avant le deep learning.
Le deep learning est un sous-ensemble du machine learning. Le machine learning, c'est qu'en fait, on va essayer d'avoir des programmes qui sont capables d'effectuer des tâches, comme de la traduction, ou répondre à des questions, ou identifier des objets dans des images, comme vous avez dit.
Le machine learning, en français, on appelle ça apprentissage automatique.
Ou apprentissage machine.
Ou apprentissage machine.
La traduction n'est même pas évidente. Oui. Et donc voilà, on veut faire des algorithmes, des programmes qui sont capables d'effectuer ces tâches-là. Ça, c'est le but. Pendant très longtemps, on essayait de tout faire à la main. C'est-à-dire qu'on allait écrire toutes les règles que l'algorithme doit suivre pour pouvoir résoudre ces tâches. C'était ce qu'on appelait les systèmes experts, qui étaient très, très compliqués à mettre au point, puisqu'en fait, il fallait plus ou moins énumérer tous les cas auxquels l'algorithme allait être si vous pensez à la traduction, il fallait énumérer tous les cas, comment on pouvait traduire une phrase en anglais et une phrase en français avec toutes les expressions qu'il peut y avoir, etc.
C'est-à-dire lui apprendre pied par pied, étape par étape, toutes les situations que la machine allait pouvoir trouver ou être confrontée.
Exactement. Même, c'était même pas lui apprendre, c'était vraiment tout écrire. C'est-à-dire que chat va être traduit par dog, par cat, chien va être traduit par dog, tout écrire, et ça fait des milliers de règles, et après, on espérait que les règles, en les appliquant, on allait avoir des traductions correctes, par exemple. Et le machine learning, c'est la première évolution, c'était année ça a vraiment commencé à vraiment bien marcher dans les 80-90, c'est de dire, ok, on va arrêter d'essayer de faire des règles, on va à la place, on va donner à la machine des exemples de la tâche qu'on veut. Donc en traduction, on va lui dire, voilà, je te donne des livres en français, des livres en anglais, l'un est la traduction de l'autre, et à toi maintenant de t'adapter et de trouver comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. Et voilà. Et comment on passe de l'un à l'autre, ça va être un modèle mathématique. Et c'est là où on arrive au deep learning, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de façons de définir ce modèle mathématique. Et celui qui marche le mieux et qui a été exceptionnellement performant au cours des 10 dernières années, c'est le deep learning, c'est-à-dire que cette fonction est définie par ce qu'on appelle un réseau de neurones.
C'est-à-dire, alors donc la différence entre le machine learning, donc c'est-à-dire effectivement donner deux livres à une machine, et le deep learning, c'est que dans le deep learning, il y a plusieurs réseaux de neurones. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones, Antoine Borde?
Voilà, donc en fait, on va avoir besoin d'un programme qui va être capable, si on reprend la métaphore de la traduction ou l'application, on va avoir un programme qui va être capable de prendre une phrase en anglais et de la transformer dans une phrase en français. C'est ce qu'il est censé faire. Alors après, on va pouvoir le faire de plusieurs façons différentes. Je vais pas tout énumérer, mais donc le deep learning, ça va être la façon de dire, ok, on va considérer qu'on va apprendre des méthodes simples, qui sont capables de faire des traitements assez simples. On va pas leur dire quel traitement, puisque c'est le principe, c'est quels sont les traitements sont appris, mais la fonction de chaque programme est assez simple. Mais le deep learning, c'est qu'en fait, on va les empiler, et qu'en fait, on va avoir ce qu'on va dire. On va mettre un programme simple qui va se connecter à un programme simple, qui va se connecter à un autre programme simple, qui va se connecter à un autre programme simple. Et au final, on va avoir ce qu'on appelle, on parle d'apprentissage profond, puisqu'il va y avoir des couches de programmes comme ça, empilés les unes sur les autres.
Qui apprennent chaque fois un petit peu plus.
Exactement. Mmh. Et donc, en fait, le programme simple qui, quand il est accolé à une dizaine de programmes simples en dessous, ben, il est plus simple du tout. Et le programme au global, et en fait, il devient très complexe et capable d'apprendre des fonctions et des tâches extrêmement compliquées.
On appelle ça donc des réseaux de neurones artificiels parce que c'est un mode de fonctionnement qui est calqué de près ou de loin, vous allez nous le dire, sur les neurones humains.
Voilà, donc on appelle ça aussi réseau de neurones effectivement pour deux raisons. Il y a une raison, c'est qu'en fait, ces programmes simples qui sont empilés, dont je parlais, sont en fait considérés de plein de petites fonctions mathématiques qui sont qu'on appelle des neurones, et qui sont des fonctions très simples qui effectuent juste une opération comme un neurone dans le cerveau. Et donc en fait, on en met beaucoup sur une couche, et ça va nous faire un de ces programmes simples, et on va les empiler, et on va avoir un programme plus compliqué de deep learning. Donc la première analogie, c'est que les fonctions de base sont appelées des neurones, parce qu'elles ressemblent un petit peu à le traitement que fait un neurone. Et la deuxième analogie, c'est effectivement cet empilage de couches qui ressemble en fait à ce qui peut être observé dans le cortex, où en fait on va avoir des couches de neurones qui sont empilées donc dans le cortex humain. Donc en fait, pour ces deux raisons, on parle de réseau de neurones artificiels, sachant que on est quand même assez loin du fonctionnement du cerveau encore.
Par rapport au nombre de neurones qu'on peut empiler, comparé au nombre de neurones qu'on a dans le cerveau, puisque aujourd'hui, les couches maximum de neurones qu'on peut empiler, on est à combien à peu près ?
Alors ça, on rentre dans les spécificités du domaine, c'est-à-dire qu'en fait, selon la tâche, donc j'ai parlé de traduction, mais si on veut faire plutôt de la reconnaissance d'objets dans des images, on peut utiliser des algorithmes de réseaux de neurones qui sont similaires en structure. Par contre, le nombre de couches qu'on va empiler, la forme des couches va vraiment différer. Donc pour les images, en fait, on a les meilleurs modèles qui marchent, on peut empiler plus de 100 couches, ce qui est beaucoup plus qu'en fait ce qu'il y a dans le cerveau. Parce qu'il y a des connexions que tu as rajoutées, ça a été quelque chose de découvert l'année dernière, en fait, par un chercheur à Facebook d'ailleurs. Et donc on empile beaucoup de couches, beaucoup plus que ce qu'on pensait possible, alors que pour des choses de traduction, on va peut-être rester à 3-4 couches.
Ce qu'il faut bien comprendre pour aider les gens qui nous écoutent à modéliser tout ça, c'est donc que ce soit en machine learning ou en deep learning, donc en apprentissage automatique ou en apprentissage profond, il y a toujours d'abord une phase d'apprentissage traité par la machine qui aboutit à une phase qu'on appelle de prédiction. Vous pouvez bien nous repréciser ces deux phases, la phase d'apprentissage et la phase de prédiction, Antoine Borde?
En fait, ces deux phases, c'est la différence majeure entre les deux classes de méthodes dont je parlais au début, entre les méthodes et système expert qui étaient entièrement écrits, pour lesquels il n'y avait pas de phase d'apprentissage. On les écrivait comme ce qu'ils devaient faire et après on les appliquait. Et les algorithmes de machine learning et deep learning. Donc dans ce cas-là, effectivement, on va créer le programme avec beaucoup de paramètres libres qui peuvent être vus un peu comme des molettes à régler. On va essayer d'ajuster ces molettes. Et sauf que les molettes, il y en a des millions. Donc en fait, on ne les ajuste pas à la main. Et en fait, comment est-ce qu'on ajuste ces molettes? On va passer par une phase d'apprentissage pendant laquelle on va montrer des exemples à l'algorithme de ce qu'il est censé faire. Et en montrant ces exemples, l'algorithme, par le biais de l'algorithme d'apprentissage, va ajuster ses molettes.
C'est, lui, c'est les algorithmes qui s'ajustent tout seuls, en fait, en comparaison, par exemple, les deux pans de la traduction, et en comprenant que cat, ça revient à chaque fois exactement à la même, au même emplacement à peu près que chat, et donc, du coup, la machine fait elle-même les ajustements pour dire, tiens, il y a un lien entre ces deux mots, c'est ça ?
Exactement, exactement. En fait, la machine va essayer de trouver des motifs dans les données, exactement comme la mais chat peut être aussi cat peut aussi être connecté à matou par exemple et donc en fait on va rentrer dans toutes les subtilités de la langue et l'avantage de pouvoir faire l'apprentissage c'est qu'on va pas avoir à dire toutes les façons qu'on peut dire cat en français, il va essayer, l'algorithme va essayer de trouver des motifs dans les données et plus on a de données évidemment meilleur ça va marcher.
C'est-à-dire que statistiquement, il y aura plus de points de comparaison, donc les résultats seront meilleurs. Alors, il faut que vous nous expliquiez également, Antoine Bord, pourquoi ce deep learning a eu mauvaise presse pendant si longtemps. Parce qu'on parlait de Yann Lequin tout à l'heure, qui est donc devenu un peu le pionnier, le grand spécialiste du deep learning. Lui, il a cru, il a continué à travailler, mais pendant très longtemps, toute la fin des années 90 et 2000, on se disait le deep learning, ça ne marchera pas, c'est trop compliqué. Pourquoi ?
Oui, alors, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est qu'en fait, pendant le deep learning, qu'on n'appelait pas encore deep learning, qu'on appelait juste réseau de neurones, finalement, une des premières méthodes d'apprentissage machine qui a été créée dans les années 70, on créait ces systèmes experts, on avait aussi des réseaux de neurones. On se disait, vraiment, regardons comment le cerveau marche, essayons de le faire. C'est quelque chose qui date même des années 50. Les gens ont essayé de faire ça. Le problème, c'est qu'en fait, on n'arrive pas la phase d'apprentissage dans ces réseaux de neurones est très compliquée. Parce que le processus d'apprentissage implique des calculs qu'on ne maîtrise pas bien. En particulier, les problèmes sont non convexes, pour être un peu technique. Mm-hmm. Par rapport à... Donc en fait, pendant des années, jusque dans les années 90, on a essayé avec ces réseaux, mais il y a eu beaucoup de déceptions en fait. Parce que quand on explique ce que le réseau de neurones et tout ce qu'il est censé pouvoir faire, les gens avaient des grands espoirs sur ce qu'on était capable de faire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à apprendre ces réseaux et que finalement, les résultats étaient mauvais ou décevants.
Mais simplement parce que les machines n'étaient pas au niveau ou pour quelle autre raison ?
Alors, il y a deux grandes raisons à cette époque-là. C'est que les machines n'étaient pas assez rapides et qu'il n'y avait pas assez de données à donner aux machines aussi. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, toute la communauté, à part certains comme Yann Lequin ou Yoshua Bengio ou certains chercheurs qui sont restés accrochés à cette méthode, les autres se sont tournés vers des méthodes plus simples qui pouvaient marcher et donner des résultats plus satisfaisants avec moins de données. Et maintenant, avec on a beaucoup plus de données, les machines sont beaucoup plus rapides, on a maintenant ce qu'on appelle des GPU, des cartes graphiques qui permettent de faire des calculs extrêmement rapides. Et là, les courbes se sont complètement inversées et on est en fait capable enfin d'apprendre ces modèles, mais qui ne sont pas vraiment différents de ceux qu'on avait designés dans les années 80-90.
C'est-à-dire qu'on a à la fois le volume de données suffisant pour avoir les multiples points de contact dont vous parliez tout à l'heure, et en même temps des ordinateurs et des processeurs suffisamment puissants pour pouvoir traiter ce volume de données, c'est ça ?
Voilà, exactement. Et quand on parle par exemple de traduction automatique, les systèmes, un des corpus qui est utilisé beaucoup, c'est très pratique, la Commission européenne et le Parlement européen. En fait, tous les discours et toutes les prises de parole au Parlement européen sont traduits dans toutes les langues de l'Europe. Je pense que c'est une vingtaine de langues au moins. Et en fait, donc depuis la création de l'Europe. Et vous voyez, vous empilez ça, ça fait beaucoup de livres.
Et ça fait beaucoup de dialogues.
Ça fait beaucoup de dialogues. Ouais. Et donc en fait, là maintenant, c'est l'outil de base qui sert à apprendre les algorithmes. Ça, il y a 10 ans, c'était impossible à faire apprendre par une machine, c'était déjà trop gros. Maintenant, c'est devenu la norme. Et peut-être que dans 10 ans, on apprendra encore sur des choses qui sont exponentiellement plus grandes.
Alors, avant de regarder ce qui se passera dans 10 ans, on va faire l'inverse. On va jeter encore un petit coup d'œil derrière notre épaule. 20 ans en arrière, on est en 1996. Ça va vous intéresser tout particulièrement, Antoine Bord, puisqu'il s'agit de communication homme-machine via l'interface du langage. C'est ce sur quoi vous travaillez. On en reparlera tout à l'heure. C'est une archive de notre partenaire, le CNRS Image. Écoutez.
Le premier problème, c'est la reconnaissance de la parole. Donc, il faut être capable d'identifier, à partir du signal vocal produit par un locuteur, les mots qui sont derrière, c'est-à-dire qu'est-ce que le locuteur a réellement dit. Le second problème, c'est de comprendre ce qui est dit à partir des mots reconnus. Et le troisième problème, c'était plutôt un problème de dialogue, c'est d'être capable de poser les bonnes questions à l'utilisateur, enfin au sujet, lorsque les informations qui sont fournies par l'utilisateur sont incomplètes et on ne peut pas donner de réponse immédiatement.
La machine reconnaît environ 1000 mots dans le domaine du service qui lui est demandé. Si l'utilisateur se trompe, elle n'est pas prise au dépourvu. Elle décode le sens du message à partir de mots-clés et de probabilités mathématiques et reformule une question.
Je veux un billet en 3e classe.
En quelle classe voulez-vous voyager ?
Avec son incontournable logique, la machine remet l'usager dans le droit fil de sa démarche, obtenir le billet de train qui lui conviendra. La première billetterie vocale sera installée à titre expérimental à la gare Saint-Lazare.
Voilà, c'était à titre très, très expérimental, parce que je ne sais pas si cette machine est restée bien longtemps gare Saint-Lazare. Antoine Borde, c'est quoi l'évolution principale entre cette machine de la SNCF et ses 1000 mots et les assistants personnels d'aujourd'hui? C'est plus du tout le même fonctionnement?
Je sais pas quel était le programme qui était à l'intérieur de cette machine, mais je pense qu'il est très différent de celui qu'on pourrait mettre maintenant. Il y a quelque chose qui est très différent, c'est l'échelle qu'on est capable de traiter maintenant. C'est-à-dire que dans le reportage, je crois qu'il est dit que la machine peut gérer 1000 mots. 1000 mots maintenant, on est plutôt à l'échelle de centaines de milliers de mots. Voilà. Et 1000 mots, en fait, on s'est surtout rendu compte que c'était beaucoup trop restreint, même pour une tâche qui concerne que les trains. Les utilisateurs peuvent utiliser un nombre incroyable de façons différentes de poser les mêmes questions. Et en fait, on s'est rendu compte que quelque chose qui est extrêmement important pour faire des systèmes qui soient utiles, c'est d'être capable de pouvoir gérer les multiples façons dans lesquelles on peut poser une question et faire une requête. Et donc, avec 1000 mots, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, il y a le vocabulaire, à mon avis, il change. Et puis, il y a une deuxième partie, il y a l'exemple de la jeune femme qui veut essayer de prendre un billet et le système ne reconnaît pas ce qu'elle a dit. Donc là c'est la reconnaissance, on a parlé de l'image, la reconnaissance de la parole, c'est-à-dire être capable de transcrire de la parole, comme je dis là, en texte, le transcrire, a fait des progrès énormes et on ferait plus cette erreur-là du tout.
On voit ces progrès-là, notamment avec les assistants personnels. Mais ça veut dire que la question en fait que je voulais vous poser, c'est ça veut dire que les assistants personnels, par exemple, sur des programmes de reconnaissance vocale, même si la technique a évolué, est-ce qu'ils sont quand même tout de même construits sur les mêmes structures ou est-ce qu'on est quand même aujourd'hui sur des structures beaucoup plus complexes et finalement très différentes de celles qu'on pouvait imaginer en 1996?
Je dirais que la réponse est pas évidente à cette question, puisqu'en fait, à l'heure actuelle, les assistants personnels et les systèmes de dialogue, c'est un des domaines qui est en essor le plus actuellement, et il y a un éventail de méthodes qui est encore extrêmement vaste. Et en fait, il va y avoir des choses qui sont basées quasiment entièrement sur du deep learning, pour revenir à ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire qu'on va passer complètement dans un système qui doit s'adapter complètement, et c'est à mon sens, la voie la plus prometteuse. Mais pour gérer des cas qu'on contrôle bien, les gens vont toujours essayer d'utiliser quelques recettes qui marchaient bien avant. Et donc, ils vont vouloir souvent mélanger leur système précédent avec du deep learning. Et donc, on se retrouve avec tout un éventail qui va être en fait un mélange. Donc, je pense qu'il doit toujours y avoir des systèmes qui sont assez proches de celui qui est dans cette séquence, alors qu'il y en a qui vont être complètement différents. Et voilà.
Pour parler très concrètement, les assistants personnels les plus fréquents, ceux qu'on pense, ceux de la marque à la pomme ou l'autre, aujourd'hui fonctionnent sur des systèmes de deep learning ou fonctionnent sur des systèmes mixtes ou hybrides, comme vous venez de les évoquer?
Alors, ça va dépendre des entreprises et il y a des entreprises comme celles que vous avez presque citées qui ne communiquent très peu sur en fait les technologies qu'ils utilisent, au contraire de Facebook. C'est-à-dire que Facebook, on a la politique de recherche de communiquer sur toutes les recherches qu'on fait au laboratoire d'intelligence artificielle par le biais de publications, par le biais de code open source, par le biais de collaboration universitaire. Donc en fait, la plupart des recherches qu'on fait, donc les systèmes de dialogue qu'on est en train de concevoir, tout le monde est au courant. Parce qu'en fait, on participe à la communauté scientifique comme ça. Il y a des entreprises pour lesquelles, en fait, c'est complètement fermé. Et donc, je ne sais pas, en fait, ce qui fonctionne. Évidemment, j'ai des suppositions, mais je ne sais pas.
Et quelles sont les principales applications aujourd'hui en deep learning? On reparlera tout à l'heure aussi de cette question de rendre en accès public, en open source, les recherches en apprentissage profond et en intelligence artificielle. Mais pour rester encore un peu dans le concret, les principales applications aujourd'hui, on parlait des assistants personnels, mais quelles sont-elles? Quelles sont celles qui vous viennent à l'esprit immédiatement, Antoine Borde, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit?
Oui, tout à fait. En étant dans le laboratoire de Facebook, je peux vous dire que l'intelligence artificielle et le deep learning est partout dans Facebook. C'est-à-dire qu'on va s'en servir pour les systèmes de traduction qui sont maintenant utilisés de façon générale et qui peut traduire plus d'une cinquantaine de langues. C'est fait avec du deep learning.
Les systèmes de traduction, il faut préciser que pour les gens qui sont pas forcément familiers, quand quelqu'un sur votre fil d'actualité ou sur une page poste un message dans une langue étrangère qui est reconnue comme n'étant pas votre langue naturelle, il y a un petit bouton sur lequel on peut cliquer en disant traduisez ça et on obtient une traduction. Ouais. Cette traduction-là, il y a encore 2-3 ans, c'était très très approximatif. C'est vrai qu'on commence à arriver vers quelque chose d'un peu plus précis.
Voilà, eh ben, on est exactement en train de voir les effets de l'apprentissage, c'est-à-dire que par le biais de Facebook, on a mis un système de deep learning pour faire ces traductions, on le met à l'épreuve des utilisateurs, et les utilisateurs l'utilisent ou non, et en fonction de ça, on peut en fait améliorer notre algorithme et effectivement les progrès. Maintenant, en fait, il y a pour certaines langues, et quand on a l'algorithme est assez sûr de lui, la traduction va être même faite automatiquement, et le petit bouton que vous avez mentionné sert à voir le contenu original.
D'accord.
Donc en fait, les gens peuvent lire entièrement un fil d'actualité dans leur langue, même si en fait il impliquait 10 langues différentes.
Et d'autres applications que vous auriez en tête, là, on parle des langues, notamment, j'imagine, sur la reconnaissance des images, des visages, des objets, des vidéos peut-être.
Oui, alors on est maintenant capable, étant donné une image, avec vraiment une précision très importante, d'être capable de dire quels sont les objets qui sont présents dans l'image, aussi quelles sont les attitudes. Donc quelque chose qu'on a fait pour être très concret, à Facebook, on a fait un système pour les malvoyants. C'est-à-dire qu'en fait, quand qui est vraiment basé sur une technologie de reconnaissance d'objets de deep learning, quand un utilisateur est malvoyant, il peut avoir la possibilité quand une image apparaît, d'avoir en fait une description sonore du contenu de l'image. Et donc, en utilisant le deep learning, il va reconnaître finalement si la scène se passe en intérieur, en extérieur, combien il y a de personnes, l'âge des personnes, quelle est leur attitude, est-ce qu'ils sont en train de sourire, est-ce qu'ils sont en train de rigoler, il peut aussi reconnaître. Donc, par exemple, pour une scène d'anniversaire, on serait capable de dire que il y a 5 personnes autour d'une table avec un gâteau d'anniversaire au milieu et les gens sourient, par exemple. Et ça, c'est fait entièrement avec un algorithme de deep learning qui peut être capable d'analyser l'image comme ça.
D'accord. Eh bien, justement, puisqu'on parle d'analyse d'image, nous avons envoyé notre reporter, Céline Lozen, qui est juste à côté de moi, à l'INRIA. Bonjour Céline.
Bonjour Nicolas, bonjour Antoine.
Alors l'INRIA, c'est donc l'Institut de Recherche en Intelligence Artificielle, et là-bas, on apprend à des machines à reconnaître ce qu'on leur montre, Céline.
Oui, exactement, c'était assez impressionnant. Je suis allée voir Jean Ponce, qui est chercheur en vision artificielle, et l'objectif de son projet, qui s'appelle Willow, c'est de développer un programme capable de reconnaître des visages et des corps en mouvement. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez connu, les technologies sur la base d'images fixes, un peu comme vous faites chez Facebook ou à Google, l'identification automatique de vos photos. Mais l'idée, là, c'est vraiment de faire la même chose à partir de vidéos.
C'est-à-dire qu'en fait, l'idée serait de doter un ordinateur d'une sorte de faculté d'analyse du mouvement, un peu comme moi, je vous vois en train de bouger vos mains, en train de lire votre papier.
Un peu comme vous, je ne sais pas, parce que ça reste quand même artificiel. Hein. On parle de machine toujours.
Mais qui sait si je ne suis pas une machine, Céline ?
C'est vrai, des fois je me le demande. Mais grâce au deep learning et par des méthodes basées sur des réseaux de neurones artificiels, comme on disait tout à l'heure, on s'en approche. En gros, par exemple, pour permettre à un programme de reconnaître un chat, il faut l'entraîner en lui fournissant beaucoup d'images de chats jusqu'à ce qu'il soit capable de reconnaître lui-même qu'il s'agit d'un chat. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et c'est même encore plus puissant. Le programme de l'équipe de Jean Ponce serait capable de reconnaître des actions du genre s'asseoir, se lever ou boire. Vous voyez un peu, Nicolas ?
Je ne sais pas si je vois aussi bien que vos machines, mais en tout cas, on va écouter.
Le deep learning est une technique qui a eu énormément de succès depuis 3 à 4 ans parce qu'elle a permis un espèce de bond en performance dans la reconnaissance visuelle. Mais aujourd'hui, elle ne sait pas gérer des images sans annotation aucune. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire et qu'aujourd'hui, le deep learning ne sait pas faire. L'idée de ce qu'on fait, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans les images ou des vidéos. C'est lié à l'apprentissage statistique. Vous prenez des images qui ont déjà été étiquetées, comme ici vous voyez par exemple les images avec des chaises, des arbres, des castors. Et à partir de ça, essayer de construire une fonction de prédiction qui, étant donné une nouvelle image, comme celle que vous voyez à droite, va essayer de décider si c'est un castor ou une chaise. Un des trucs qu'on fait chez nous, c'est on regarde des films. Et on va essayer de se servir des métadonnées qui accompagnent les films. Donc par exemple, ça c'est une scène de Casablanca. Et si vous regardez le script de Casablanca, le script va contenir bien sûr les dialogues, qu'est-ce que vont dire les personnages, mais il va aussi contenir une description de ce qui se passe dans la scène. Donc là par exemple, Ingrid Bergman et son mari arrivent dans le restaurant. Et comme vous voyez, le script dit qu'il passe par le piano et Ingrid Bergman regarde Sam. Et vous voyez que c'est lié directement au contenu visuel de l'image. Donc une des tâches auxquelles on s'intéresse, c'est dire pour chaque moment de la vidéo qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc ce qu'on peut faire assez facilement, c'est aligner automatiquement le script et les sous-titres, ce qui permet d'avoir pour chaque plage temporelle du film du texte. Ce texte va décrire ce qui se passe dans cette plage. Ce que montre la vidéo, ce sont des clips pris dans des films. Et la tâche de l'ordinateur, c'est d'identifier pour chaque image du clip à quelle action elle correspond. Donc on se donne un dictionnaire prédéfini d'actions, par exemple se lever, s'asseoir, etc. Et la vidéo va tourner au ralenti quand l'ordinateur pense avoir trouvé une instance de l'action en question. Et c'est validé en comparant les résultats obtenus par l'ordinateur à des résultats obtenus par une personne qui a étiqueté à la main les actions en question dans le clip. En bas, vous avez les petits tirets étroits, c'est ce qu'a trouvé l'ordinateur. Et en haut, les plages beaucoup plus larges, c'est ce qu'a noté la personne. Vous allez voir dans ce clip, va y avoir l'action en jaune, là, c'est l'action de boire. Elle verse le champagne, ils discutent, ils prennent le verre et enfin la personne boit réellement. Et le moment où la personne boit réellement, c'est là où l'ordinateur lui a pensé que c'était l'action de boire. Donc vous voyez, les deux sont raisonnables mais sont différents.
C'est quand même fascinant, c'est-à-dire qu'à partir d'une vidéo, le programme il peut reconnaître un comportement.
Il peut le faire sans intervention humaine, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est un peu différent des méthodes justement d'apprentissage profond qui en général requièrent que quelqu'un ait noté toutes les images. Une autre chose à laquelle on s'intéresse, c'est de la reconnaissance totalement non supervisée. Non supervisée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'annotation du tout. Dans le cas classique, quelqu'un annote à la main les images. Dans le cas que je vous ai montré avec les vidéos, on se sert du script au lieu de se servir d'annotation manuelle, donc ce qu'on appelle souvent des méthodes faiblement supervisées. Les méthodes non supervisées, on se sert de rien du tout. On se sert uniquement du contenu visuel. L'idée, c'est que souvent les annotations, on ne se sert pas de la sémantique des annotations. Le fait que ce soit se lever ou s'asseoir, on ne s'en sert pas réellement. On se sert du fait que quelqu'un a groupé ensemble les choses qui se ressemblent. Donc quand on dit, voilà, on s'assoit, ben, quelqu'un a mis des images où on s'assoit, etc. Et donc l'idée, c'est qu'au lieu d'utiliser de la notation manuelle comme ça, ce qu'on peut faire, c'est essayer de grouper ensemble les images qui ressemblent de manière automatique et de se servir de ça à la place de notation. Et en faisant ça, on peut obtenir par exemple ces résultats. Alors là, c'est un film qui s'appelle Babe. C'est les aventures d'un cochon, un cochon parlant. Et donc, ce que fait l'ordinateur, c'est de trouver dans le film les morceaux d'images qui se ressemblent le plus les unes aux autres et qui réapparaissent souvent. Et donc là, ce qu'on fait, c'est découvrir en fait de manière totalement automatique et sans aucune supervision les objets les plus importants dans le film. Et donc, ce que vous voyez, c'est que l'ordinateur découvre des visages d'animaux parce que ce sont les objets les plus courants dans le film. Donc, il trouve des chiens, mais il trouve surtout Bebe le cochon qui est le héros du film. Il trouve aussi des moutons, etc. Mais c'est fait sans donner aucune information supplémentaire à l'ordinateur. Simplement, lui donne le film et puis il va trouver les choses les plus pertinentes et qui apparaissent le plus souvent. Dans ce cas-là, des animaux. Je pense que l'apprentissage en général et la vision artificielle, ça va jouer un rôle important pour tout le monde, effectivement, que ce soit la vie quotidienne, la santé, etc. Le deep learning est une technique parmi d'autres qui marche très bien dans de nombreux domaines. Et il y a une idée réellement pertinente et qui restera du deep learning de toute manière, c'est l'idée qu'on peut entraîner un système end-to-end, comme on dit en anglais, du début à la fin. Il y a plein de problèmes non résolus et non résolus, y compris par l'apprentissage profond.
Voilà le reportage de Céline Lozen à l'INRIA, reportage que vous pouvez retrouver évidemment sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Ce qui est amusant dans ce reportage qu'on vient d'entendre, Antoine Borde, c'est, j'aime bien sur la fin, on a l'impression que l'ordinateur découvre des animaux comme un enfant découvrirait des animaux, c'est-à-dire que vraiment, on ne l'aide pas, il retrouve, alors évidemment il ne conceptualise pas le cochon ou le chien, mais il découvre quand même un chien et un cochon, et il l'identifie comme chien et cochon.
Oui, alors ce que j'en pense, effectivement, ce dont il parle à la fin, surtout de l'apprentissage non supervisé, est vraiment le champ de recherche relié à l'apprentissage profond et même à l'apprentissage en général qui intéresse le plus les chercheurs, puisqu'effectivement, comme il l'a dit, quand je parlais de mon histoire de traduction au début, il fallait des textes qui soient traduits de français en anglais, il en fallait en grande quantité. Et en fait, ce que j'en pense en train de dire est... Dans l'apprentissage non supervisé, en fait, je pourrais juste donner des textes en français à la machine, juste donner des textes en anglais, et la machine apprendrait à parler les deux langages toute seule, et ensuite, après, je pourrais faire des calculs. Et c'est pareil pour les images. Voilà. Je voulais aussi ajouter que on connaît très bien les travaux de Jean Ponce à Facebook et à Research à Paris, puisqu'en fait, un des étudiants qui travaillait sur ce projet il y a quelques années, en fait, est chercheur chez nous maintenant. Donc, on a une connexion assez forte. Et on a aussi une thèse en collaboration avec eux sur des thématiques proches. Donc c'était vraiment très pertinent. Et le dernier point, c'est qu'en fait, on a fait tous les modèles dont parle Jean-Paul sont appris sur les cartes graphiques dont je parlais précédemment. Et Facebook a fait le don de serveurs de calcul de cartes graphiques. C'était annoncé par Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, le mois dernier. On en a donné à toute l'Europe, dont deux serveurs pour l'équipe de Jean Ponce à Paris. Donc c'est vraiment très très pertinent.
Bah écoutez, merci beaucoup. On est ravis d'avoir été pertinent. Je vais vous poser des questions qui sont peut-être un peu plus inquiétantes maintenant, parce que si on se projette un peu dans un avenir de reconnaissance d'apprentissage supervisé ou non supervisé d'ailleurs, on se dit que c'est très bien de pouvoir reconnaître, d'identifier des mouvements et des comportements dans des films. Mais qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on peut commencer à appliquer cette technique à des caméras de vidéo surveillance, à des scènes réelles? Est-ce qu'on voit assez bien la continuité qu'il peut y avoir et l'intérêt qu'on peut trouver à ce type d'apprentissage-là sur des images réelles, Antoine Borde?
Voilà, oui, donc c'est un problème et qui est effectivement
de ce que je veux dire, soulevé. Oui, c'est que surtout, on va se rendre compte très vite qu'on commence à arriver à des problèmes qui soulèvent quelques questions éthiques.
Oui, et effectivement, ça a été soulevé, mais je pense pas que ça soit effectivement lié aux recherches en intelligence artificielle, c'est plutôt lié aux questions de l'utilisation de ces recherches-là. Mmh. Et ça, ces questions, effectivement, comme dans d'autres recherches d'autres domaines, effectivement, posent des questions sur à quel point on peut utiliser ces méthodes-là. Mais ce que fait l'équipe de Jean Ponce ou ce qu'on fait nous, c'est essayer de développer les méthodes et de montrer jusqu'où on peut aller. Après, est-ce qu'on peut appliquer telle méthode dans tel contexte? C'est pas à nous de le décider, mais on donne les outils et après on obéit aux règles.
Mmh. Est-ce que, par exemple, sur l'utilisation des réseaux sociaux, maintenant on sait que sur n'importe quel réseau social d'ailleurs, mais principalement sur Facebook, quand je poste une photo avec des amis, il y a des suggestions d'amis quand je veux les identifier qui viennent très naturellement. C'est-à-dire que est-ce que c'est l'algorithme qui reconnaît le visage de mes amis, ou est-ce que c'est l'algorithme qui déduit que ça doit être l'un de mes amis parce que je poste souvent des photos avec ces gens-là, etc. Mais là aussi, on me propose spontanément de mettre un nom sur un visage sans forcément demander l'autorisation à la personne qui est sur cette photo si elle veut apparaître et être nommée de cette façon-là.
Voilà, donc effectivement, il y a des services de suggestion d'ajout de catégories et d'étiquettes sur les vidéos. Alors, il faut savoir que le service qui permet d'étiqueter les gens, c'est quelque chose qui dépend de la législation de chaque pays. Et en fait, c'est quelque chose qui est, par exemple, qu'on n'utilise pas en Europe. On n'utilise aucune technologie de reconnaissance de personnes en Europe, puisque la législation l'interdit. Évidemment, on obéit à la législation.
Une autre question, et puis ensuite on reparlera dans quelques instants de vos travaux sur le langage, sur la traduction, sur les données relationnelles. Vous disiez tout à l'heure que vous travaillez dans les laboratoires de Facebook en open source, etc. Pour autant, dès qu'on commence à rentrer, à s'intéresser à ces structures algorithmiques ou informatiques, on a l'impression qu'on n'est pas loin tout de même du secret défense, hein, le fameux algorithme de Facebook pour savoir ce qui apparaît sur la timeline, donc sur le mur de chaque utilisateur. Et un secret aussi qui est extrêmement bien gardé. C'est-à-dire que là-dessus, sur ces recherches-là, on fait quand même très attention à avoir son propre précaré et ça reste relativement secret.
Voilà, mais il y a des algorithmes qui sont utilisés dans tout Facebook, dans les équipes produits, et qui permettent effectivement d'améliorer les services. Ces algorithmes-là, certaines parties sont en fait open sourcées aussi. Par exemple, le langage Hack, qui est un nouveau langage basé sur le PHP, pour être un peu technique, qui a révolutionné Facebook et a été en open source depuis 5 ans. Et c'est quelque chose qui est fondamental à Facebook. Quelque chose qui s'appelle HHVM, qui est un outil qui est extrêmement important à Facebook aussi, en cœur du système, pas juste dans le laboratoire d'IA, a aussi été open sourcé. Donc on essaie d'être transparent la plupart du temps. Je pense que pour au labo d'IA, nous, on n'est pas directement sur les produits, donc on a effectivement plus de facilité à communiquer, on peut communiquer plus rapidement, mais il y a quand même une volonté de l'entreprise d'être assez transparent sur les méthodes, quand évidemment, on peut le faire.
Never be lonely. Personal computer. Someone that's listening. Personal computer. Someone that's listening. Personal.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et à 16h36, nous poursuivons notre émission consacrée à l'apprentissage profond, au deep learning et à l'intelligence artificielle avec Antoine Borde, chercheur à la Facebook Artificial Intelligence Research. Antoine Borde, vos travaux portent plus précisément, donc on en a parlé un peu en première partie, sur le langage et les données relationnelles. Racontez-nous un peu exactement finalement le champ de vos recherches et ce sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment.
Oui, donc effectivement, on en a un peu parlé avec la séquence au début et puis un petit peu avec la traduction. En fait, avec la séquence de Jean Ponce, on a montré qu'on était capable de faire des grands progrès en compréhension des images. En fait, pour beaucoup d'observateurs et de spécialistes, la compréhension du langage par les machines reste la barrière la plus difficile, puisqu'en fait, le langage est extrêmement compliqué dans le sens où les gens peuvent ajouter beaucoup de contexte et beaucoup de sous-entendus, beaucoup de il y a le sarcasme. Voilà, exactement. Donc en fait, une image peut être compliquée à analyser, mais en théorie, elle est objective. Alors que le langage l'est pas. Donc en fait, effectivement, mon rôle à Facebook avec d'autres chercheurs, c'est effectivement essayer de voir comment est-ce qu'on peut avancer les recherches en compréhension du langage. Et en particulier, mes recherches à moi traitent sur les systèmes de dialogue et aussi les systèmes qu'on appelle de questions-réponses. Donc on va poser une question à une machine et on va espérer qu'elle est capable de donner la bonne réponse.
Et alors ça va jusqu'où? Et c'est l'objectif en termes d'application serait lequel?
Ils sont innombrables puisque dans le cadre de Facebook, en fait, vous en avez parlé, on a des algorithmes pour améliorer le fil d'actualité et pour essayer de montrer aux utilisateurs les éléments qui sont les plus pertinents pour eux. Et donc, en fait, ça implique d'avoir une compréhension toujours plus fine de qu'est-ce qui est dans chacune des publications qui apparaissent sur le fil. Et plus on va avoir une compréhension fine, plus on va être capable de faire ça. Donc, en fait, si on arrive à apprendre que tel poste a parle de tel sujet et qu'en fait il a un contenu émotionnel important ou des choses comme ça, on va peut-être être capable de le montrer plus en avant que si on a juste une compréhension assez basique. Donc toute avance vers la compréhension du langage va améliorer pour nous. Donc après, comment ça se traduit en fait en pratique? C'est qu'on va essayer de prendre des tâches qui sont existantes, mais d'améliorer en fait les performances qu'on peut avoir tout simplement. Des tâches existantes, ça va être d'être capable de... Le système de questions-réponses, c'est une tâche qui a existé avant le deep learning. C'est une des plus vieilles tâches de l'intelligence artificielle. Ça fait des années que les gens voudraient être capables de poser n'importe quelle question à une machine, d'avoir une réponse. Et bien là, on va dire, OK, est-ce que je peux, avec un réseau de neurones, traiter les bases de données qui contiennent les réponses et traiter le langage des questions et remplacer les systèmes avant, comme on a parlé pour l'instruction, par des systèmes de deep learning? Est-ce que j'arrive à faire mieux que ce qui était fait avant? Et si oui, comment ça peut se traduire dans des applications, etc.
Donc, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que là aussi, quand on commence à étendre un peu et à se dire quel est l'avenir de cette recherche en deep learning et en intelligence artificielle, on voit déboucher pas mal de choses, ne serait-ce que l'amélioration des assistants personnels dont on parlait tout à l'heure. Si je peux me mettre à parler à mon téléphone ou à mon ordinateur comme ça de manière tout à fait naturel, est-ce que l'idée c'est qu'à un moment donné on puisse s'entendre, on puisse comprendre dans l'intonation des voix, dans le choix des mots, dans la rapidité ou dans la lenteur de l'élocution, une charge émotionnelle, une tristesse? Est-ce qu'on peut commencer à imaginer qu'on va faire rentrer dans la compréhension du langage une part de d'immatériel, c'est-à-dire pas juste de l'information mais de l'information émotionnelle par exemple?
Bien sûr, c'est évidemment un sujet qui est très intéressant et qu'on essaye d'avancer. Donc effectivement, comprendre le sens objectif d'une phrase, c'est déjà quelque chose qu'on essaie d'avancer, parce que c'est toujours pas évident pour les machines non plus, faut pas croire que ça s'est résolu. Mais effectivement, on va aussi rajouter beaucoup de choses qui viennent du contexte dans lequel une phrase a été dite, par qui elle a été dite, dans quelles conditions, et aussi, bien sûr, si on a accès à la parole et que c'est pas juste du texte, on va aussi avoir accès à l'intonation, etc. Effectivement, il y a des recherches sur tous ces domaines qui essayent en fait d'améliorer ce qu'on peut faire. Alors évidemment, améliorer, ça veut dire qu'est-ce qu'on attend de l'assistant personnel ou qu'est-ce qu'on attend du système. Si on veut faire juste un système de reconnaissance de la parole, on va vraiment se concentrer à essayer de passer de la parole à une phrase en texte qui correspond à ce qui a été dit. C'est déjà un problème très difficile, mais qui a fait beaucoup d'avancées récemment, parce que la tâche est encore relativement simple d'un point de vue sémantique, puisqu'on essaye, et je dis simple avec des... J'ai fait des guillemets, mais ça s'est pas vu.
C'est normal, c'est la radio.
Effectivement, je dis simple parce que c'est une tâche qu'on arrive à bien traiter, qu'on arrive à avancer. Après, être capable de passer de ça et de faire... des tâches beaucoup plus compliquées qui vont impliquer de réagir à l'utilisateur en fonction de son état d'esprit, de comment il se sent, de son statut émotionnel. Ça, ça implique aussi de savoir, de comprendre quel est son état émotionnel, mais qu'est-ce qu'on veut envoyer en retour. Et ça, c'est une grande question.
C'est une grande question, mais est-ce que c'est à votre avis accessible? Parce que on va poser un peu le cadre de ce qui arrive dans le futur. Est-ce que vous pensez que, compte tenu de l'avancée des techniques et de la technologie, on va pouvoir avancer très vite, rapidement dans le deep learning, dans l'apprentissage non supervisé, ou est-ce que, compte tenu du fait que les processeurs sont quand même un peu moins rapides qu'avant, l'augmentation de la puissance de calcul est quand même un peu moins rapide qu'avant, on est arrivé à un moment donné où ça risque de plafonner un peu. Antoine Borde.
Oui, alors je pense qu'on n'est absolument pas arrivé à un plafond. En fait, effectivement, peut-être que les processeurs et les cartes graphiques individuelles ne vont peut-être pas plus vite. J'ai pas les chiffres. Mais par contre, ce qu'on est capable de faire maintenant, c'est au lieu d'apprendre sur un seul processeur et une seule carte, on peut apprendre sur 10 cartes en même temps, sur 100 cartes en même temps. Là, on a fait beaucoup d'avancées en termes de matériel et aussi de logiciel. Donc en fait, même si la carte n'a pas avancé, on est capable d'en utiliser 10 quand on utilise une. Donc on est toujours capable d'être beaucoup plus rapide. Donc on a toujours cette capacité à aller plus loin. Et on est aussi capable de gérer toujours plus de données. Donc cette pente ascendante, pour revenir à ce que dit Jean-Ponce, de l'apprentissage supervisé, qui nécessite, celle-là va continuer. Après, malheureusement, il y a des tâches qui vont jamais pouvoir avoir des données supervisées de façon assez importante. Et le dialogue en est un, puisqu'en fait, on va vouloir avoir des systèmes, comme vous l'avez dit, qui sont personnalisés pour les utilisateurs, qui sont capables de prendre en compte leurs émotions, leurs états d'esprit. Et ça, en fait, on va pas avoir un énorme ensemble de toutes les discussions pour toutes les personnes sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils veulent faire à tout instant. Et être capable de gérer ça, c'est très compliqué. Donc là, effectivement, on va vouloir faire des avancées sur l'apprentissage non supervisé. C'est le grand challenge de l'apprentissage actuellement. C'est la clé qui pourra... disons que les chercheurs pensent que l'apprentissage supervisé va avancer et encore atteindre de nouvelles performances, mais l'apprentissage supervisé ne pourra pas résoudre toutes les tâches qu'on s'attend à être résolues par l'intelligence artificielle.
Parce que vous êtes donc pas d'accord, il y avait un article dans The New Scientist qui s'interrogeait sur la bulle de la recherche en intelligence artificielle et qui se demandait un peu si cette bulle allait éclater comme toutes les bulles précédentes. Hein, on croyait, vous le disiez, dans les années 70, les premières recherches sur les réseaux neuronaux artificiels ont amené à ce qu'on a appelé l'hiver de l'intelligence artificielle, puisqu'il s'est rien passé pendant quasiment 20 ans. Et vous avez pas l'impression que sur ces techniques de deep learning, d'apprentissage supervisé et non supervisé, on est dans une bulle qui va éclater dans un an, deux ans, ou dans peu de temps en tout cas.
Alors, effectivement, je réfléchis à ces questions. Alors, de par ma position, je suis dans la bulle, en plein milieu. Donc,
mais on peut en être conscient.
Ah oui, et bien sûr, et j'ai réfléchi. Alors, je n'aurais pas un constat, et je pense qu'on est quand même dans... Et on se pose cette question très souvent, en fait. Surtout avec Yann Lequin comme directeur, qui lui a connu effectivement la période où, pendant laquelle les réseaux de neurones n'étaient utilisés par personne. C'est le premier à mettre en garde contre tout ce qu'il appelle... une espèce de mode en fait qu'il faudrait dépasser. Néanmoins, là, une différence par rapport à il y a 20 ans, par exemple, c'est que les algorithmes d'apprentissage automatique et de deep learning ont déjà montré qu'ils étaient efficaces et qu'ils pouvaient rendre des services. C'est-à-dire qu'on est, on n'est pas dans un système où en fait on attend qu'il y ait un agent intelligent qui soit créé par le deep learning, et là on dira « Ah, le deep learning a été utile ». Il est déjà utile pour faire de la traduction qu'on a parlé sur Facebook, il est déjà utile pour le fil d'actualité, il est déjà utile pour faire de la reconnaissance d'objets. Il y a beaucoup d'applications qui sont déjà utiles. Le nombre de produits et de startups qui sont créés avec du deep learning est vraiment très important. Alors, évidemment, tous les produits ne sont pas intéressants, tous les produits ne vont pas amener à des révolutions, mais il y a déjà toute une gamme d'applications qui ont été vraiment qui valident en fait le fait que le deep learning est déjà utile. Et
là, on parle de réseaux sociaux, d'assistants personnels, le deep learning et aussi on cherche des débouchés, notamment sur le diagnostic médical.
Oui, alors c'est un domaine que je connais un peu moins puisque on n'en fait pas à Facebook Air Research et moi encore moins en tant que traitement du langage. Mais effectivement, c'est donc là on s'apparente à une branche de l'apprentissage dont on n'a pas trop parlé, qui s'appelle plutôt la prise de décision séquentielle, où on va effectivement avoir des programmes qui vont être capables de faire un espèce un raisonnement pour passer en prenant, en suivant une idée, puis en fonction de cette idée, suivre une autre idée, etc. et continuer. Ça, c'est quelque chose qui avance beaucoup avec ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, etc. Qui est aussi une branche qui n'est pas forcément liée au deep learning, même si on peut les combiner, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui aussi fait beaucoup de progrès. Et effectivement, ça peut être appliqué au diagnostic médical.
On voit alors se dessiner malgré tout, même si pour le moment, on en discute de manière assez apaisée parce qu'on est dans le domaine de l'entertainment, ou en tout cas du loisir, des réseaux sociaux, je le disais, de l'assistant électronique, de la traduction d'un langage à l'autre. Mais si on met un peu tout ça ensemble, on parlait tout à l'heure de la reconnaissance vidéo, de l'identification des mouvements, des personnes, des actes, on parlait à l'instant de la reconnaissance des émotions dans la voix, on parle à l'instant du diagnostic médical. Est-ce que, mis bout à bout et en réfléchissant de façon un peu plus large aux implications éthiques de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne rejoint pas, par des petits chemins de traverse ou non d'ailleurs, le point de vue de personnalités publiques telles Stephen Hawking, Bill Gates ou Elon Musk, qui tempêtent, qui tonnent, qui prennent leurs plumes dans la presse et à la télévision pour dire attention, attention à l'intelligence artificielle, ne faisons pas n'importe quoi, l'intelligence artificielle, ça peut être dangereux.
Oui, alors je pense qu'il faut aller à rebours de ces... complètement à rebours de ces...
de ces points de vue, exactement,
merci. Parce qu'en fait, il faut vraiment opposer ce qu'on est capable de faire et quels sont les fantasmes. On n'est pas dans un livre de science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de ces constats qui se basent sur le fait qu'on aurait, qu'on serait dans Terminator ou voilà. Encore une fois, c'est pour revenir à la citation dont on a parlé au début, où j'ai dit que les algorithmes étaient encore un petit peu idiots. Effectivement, ils ont des capacités qui deviennent très impressionnantes et qui rendent des services. Les services sont encore très, très spécialisés. On va vraiment être capable de reconnaître des objets dans une image. Point. On va être capable de traduire de l'anglais au français, point. Et encore, encore de façon supérieure à ce que pourraient faire les humains dans beaucoup de choses. On n'en est pas encore à être capable de mettre toutes les... Vous disiez, on a beaucoup de pièces, et peut-être que quand on les mettra toutes ensemble... Les mettre toutes ensemble est un problème extrêmement compliqué, et on est extrêmement loin de savoir même comment faire toutes les pièces.
D'accord, vous pensez vraiment que quand Elon Musk dit qu'il consacre une demi-journée par semaine pour développer une intelligence artificielle en open source, pour lutter contre cette espèce d'intelligence artificielle maléfique, on est dans un fantasme qui n'a pas grand sens avec la réalité, avec la réalité des avancées techniques et technologiques dont on vient de parler, Antoine Born?
Alors, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. Il y a le fait de développer une intelligence artificielle qui soit maléfique. Là, je pense qu'on est vraiment
dans le fantasme.
Par contre, le fait de faire la recherche ouverte en open source et d'être complètement ouvert sur ce qu'on fait et de ses avancées, qui est effectivement quelque chose qu'il prône et qui est exactement quelque chose que nous faisons aussi à Facebook, je trouve que c'est très important. C'est très important pour que, effectivement, les gens puissent s'interroger sur où on en est et être capables de voir. Effectivement, on est complètement ouvert sur la capacité de nos algorithmes les plus puissants. Donc, les gens peuvent voir, si vraiment ils regardent près, ils vont être capables de voir à quel point on est fort, mais limité aussi. Et aussi d'être capable d'être jugé par la communauté scientifique et de ne pas travailler derrière des portes en disant, avec le fantasme, qu'en fait, on est en train de créer quelque chose de complètement surnaturel derrière. On va juste dire non, on fait de la recherche de qualité qui est intégrée dans la communauté scientifique et on vous présente ce qu'on fait et vous voyez comment on avance. Et on avance tous ensemble. Et effectivement, le fait que tout le monde peut regarder ce que fait tout le monde est capable aussi d'avoir un processus de relecture et de modération interne qui fonctionne très bien.
Pour le moment, donc on dit, on le disait, hein, les machines sont en mesure de reconnaître des schémas, le schéma d'un chat par exemple, c'est-à-dire que sans leur donner quoi que ce soit, elles finissent par comprendre, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, que c'est un chat. Mais est-ce qu'en multipliant les couches de neurones, on peut imaginer qu'elles finissent par comprendre non plus juste le schéma d'un chat, mais ce que c'est un chat, c'est-à-dire de le corréler à c'est un animal à quatre pattes de la catégorie des félins, etc. C'est-à-dire de conceptualiser un chat. Vous pensez que c'est possible, ça, un jour?
Je pense que ça sera possible un jour. Encore tout de suite. Mais il faut savoir que quand une machine est capable de conceptualiser ce qu'est un chat, pour l'instant, enfin, en tout cas, d'identifier les chats, ce qu'a pas dit Jean Ponce dans la séquence, c'est le nombre d'exemples et le nombre d'heures de vidéos de chats qu'il fallait donner. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent qu'en fait, un enfant, puisque vous avez fait le parallèle au début, peut reconnaître un nouvel animal ou un nouvel objet avec 3-4 exemples. En fait, on peut montrer un chat 3 fois un enfant et la quatrième fois, il va reconnaître un chat. Les machines, on n'est pas 3 quarts, on va être 3-4 milliers ou 3-4 millions même, selon les objets. Donc il y a aussi un facteur qu'il faut aussi remettre dans son contexte, c'est-à-dire que les machines sont capables de faire des choses très intéressantes, mais la quantité de données qu'il leur faut, et complètement sans commune mesure avec ce qu'il nous faut à nous.
Ma dernière question, Antoine Borde, avant de passer à la recherche montre en main, comme tous les mercredis, c'est à quel moment finalement est-ce qu'on se rendra compte, et surtout à quel moment est-ce qu'on se rendra compte que ces machines qui sont auto-apprenantes sont arrivées à un niveau de complexité dans la façon de structurer leur échange d'informations ou les informations qu'elles traitent, auxquelles on, finalement, nous, humains, n'aurons plus accès. Vous pensez qu'il y a un point de rupture de ce côté-là, on dira, oups, là, c'est allé trop loin dans les systèmes neuronaux, les systèmes de dialogue et d'échange d'informations entre les machines, mais on comprend plus ce qu'elles se disent.
Alors, je pense que si ce point existe, je ne suis même pas sûr, je pense qu'il est quand même très loin dans le futur. Néanmoins, il y a deux choses que je voulais mentionner sur ce sujet. Un, il y a au sein de la communauté scientifique, il y a beaucoup d'initiatives pour être capable d'évaluer les méthodes, parce que de plus en plus de méthodes essaient de faire du dialogue, essaient de faire du raisonnement. Donc, beaucoup d'initiatives sont en train de naître pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut évaluer ces méthodes pour savoir si elles sont capables de raisonner, comment on fait. Est-ce qu'on leur donne un livre à lire, on leur pose des questions? Est-ce qu'on les fait jouer à des jeux? Etc. Donc là, il y a déjà eu toute une réflexion, comment est-ce qu'on fait pour tester? Et la deuxième partie, c'est qu'il y a aussi toute une sous-communauté dans la communauté de l'apprentissage qui cherche à essayer de savoir comment est-ce qu'on peut interpréter, comment font les machines pour... Donc, en fait, en même temps qu'on développe des machines plus compliquées, on essaie aussi de développer des outils diagnostiques qui sont capables de dire « il a fait ça parce qu'il a fait ce cheminement ».
Et à 16h52, comme chaque mercredi, je vous le disais, c'est donc l'heure de la recherche montre en main. Une jeune scientifique, en l'occurrence, vient nous présenter son domaine de recherche. La contrainte, c'est le temps, 4 minutes maximum. Aujourd'hui, c'est donc Claire Vernade. Bonjour Claire.
Bonjour.
Vous êtes en thèse à Télécom Paris Tech, vous travaillez sur l'apprentissage par renforcement. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous.
Merci pour votre invitation. Ça me fait très plaisir de venir présenter mon travail sur France Culture.
Vous êtes la bienvenue.
Donc, comme l'a évoqué Antoine un peu plus tôt, l'apprentissage par renforcement, c'est quelque chose qui est assez transverse avec le deep learning dont on a beaucoup parlé pendant cette émission. Donc, je vais essayer d'un peu expliquer quel est le cadre de mon travail. Donc, on parle d'algorithmes d'apprentissage par renforcement lorsque les algorithmes sont face à des décisions à prendre à chaque instant et qui sont face à un environnement incertain dans lequel qu'ils doivent découvrir au fur et à mesure et apprendre à interagir avec. Mmh. Donc moi, plus spécifiquement, mon objectif, c'est de proposer et d'analyser des cadres mathématiques simples qui permettent de modéliser des situations d'apprentissage concrètes, comme typiquement le diagnostic médical qu'a évoqué Antoine, mais on peut imaginer toutes sortes d'autres applications en optimisation de campagnes marketing ou autres. Voilà, donc... Le travail qui m'intéresse, c'est d'analyser statistiquement, donc de proposer des preuves mathématiques à ce cadre statistique de l'apprentissage par renforcement. Donc, je vais vous donner un exemple concret qui est à l'origine de cette discipline qui m'intéresse. Donc, imaginez que vous êtes un médecin et que vous avez face à vous une population qui est atteinte d'une pathologie bien identifiée, mais vous ne savez pas comment la traiter. Vous avez donc deux traitements possibles, un traitement A, un traitement B. Vous ne savez pas lequel est le meilleur. Mmh. Donc une technique un peu naïve qu'on peut imaginer, c'est de diviser la population en deux. Donc si vous avez 500 personnes, vous mettez 250 personnes d'un côté, 250 personnes de l'autre. Vous testez le traitement A, le traitement B, et vous décidez au bout de 500 essais lequel est le meilleur. Et à l'avenir, vous pourrez traiter vos patients.
C'est même souvent ce qu'on fait avec des essais placebo d'ailleurs.
Voilà, c'est souvent ce qu'on fait. Maintenant, imaginez que le traitement A, malheureusement, il était mal calibré, je ne sais pas, mais en tout cas, imaginez qu'il tue vos patients, c'est systématiquement. Dans ce cas, vous avez sacrifié 250 personnes pour le test. Et il aurait bien mieux valu vous apercevoir avant que le traitement A a tué vos patients. Donc, nous, on va proposer des stratégies d'action séquentielle, de traitement séquentiel. C'est-à-dire, vous allez prendre un patient, lui proposer un traitement, le traitement A ou le traitement B, observer sa réponse. Et à l'instant T plus 1, à l'instant suivant, vous allez devoir adapter votre décision à votre observation précédente. Et comme ça, au fur et à mesure du temps, vous allez adapter vos décisions à vos observations.
Pour choisir à chaque fois celle qui fonctionne le mieux.
Celle qui fonctionne le mieux et qui vous permet en fait d'avoir une bonne, disons, vous voulez à la fois être capable, donc c'est là le compromis auquel vous faites face, vous voulez à la fois être capable d'explorer suffisamment chacun de vos traitements, mais d'autre part, être capable d'exploiter précisément le traitement qui soigne les patients et pas celui qui les tue. Donc vous êtes face à ce compromis exploration et exploitation. Et vous êtes, enfin, voilà, vous devez les résoudre, proposer une méthode pour le résoudre. Donc moi, je vais essayer au cours de ma thèse de considérer des situations d'apprentissage qui sont très semblables à celles que je viens de vous proposer, mais parfois un peu plus complexes. Donc voilà, le diagnostic médical, c'est pas juste deux traitements, ça peut être beaucoup plus complexe. Éventuellement modéliser les externalités de ces problèmes. Et donc en trois étapes, la première, il va falloir être capable de quantifier mathématiquement la difficulté des problèmes qu'on se pose. Donc ça revient à prouver une borne inférieure sur la performance d'un algorithme qui puisse résoudre le problème. La deuxième étape, c'est de proposer un algorithme qui résout ce problème. Et la troisième étape, c'est de garantir statistiquement que l'algorithme qu'on a proposé réalise en effet les performances qu'on avait prévues et soigne effectivement un nombre raisonnable de patients. Donc à quoi ça peut servir? Ben, pour le moment, c'est moi, les contributions que je fais et ma discipline, c'est encore des contributions qui sont très théoriques. Mais on peut imaginer qu'à l'avenir, avec tous les algorithmes d'intelligence artificielle qui vont arriver autour de nous, il est fort probable que ces algorithmes doivent faire face à des prises de décision dans l'incertain, face à un environnement changeant, un environnement humain, naturel, qui est aléatoire et qu'ils doivent découvrir. Et alors, on aura mieux compris le cadre mathématique et les enjeux de ces décisions.
Antoine Born, une réaction à cette présentation. Félicitations, Claire, c'était très clair.
Oui, alors, j'adore ce sujet de recherche. Et effectivement, c'est comme l'a dit Claire, comme je l'avais dit, en fait, c'est vraiment complètement complémentaire à la recherche sur deep learning. Le deep learning va être capable de donner des éléments à chaque instant de la réaction des patients, par exemple, pour prendre la même image, et aussi de comment l'environnement a réagi. Et ensuite, avec les travaux de Claire, on va pouvoir dire, étant donné ces informations qui ont été données par le deep learning, où est-ce qu'on va?
Eh bien, merci à tous les deux. Merci beaucoup, Claire Vernad. Merci, Arnaud Bord, d'avoir été nos invités ici dans la méthode scientifique. Toutes les références et à vos travaux et aux séquences que vous avez pu entendre, le reportage de Céline Lozen, les archives du CNRS Images, tout est à retrouver sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Pour les réseaux sociaux, puisqu'on en a parlé un peu, vous pouvez nous retrouver sur Twitter avant tout, le compte @lamethodefc. Sur Facebook, il faut nous suivre, mais via la page de France Culture. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naga de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Léo Quentin, Céline Lozen. À la réalisation, Elisabeth Miro. À la technique, c'était Jacques Azubert. Et au droit d'auteur, Jean-François Souvigny.